Vous êtes sur RTL.
Vos projets vont plus loin.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Belfort est assommé par la suppression annoncée d'un millier d'emplois chez General Electric. Bon, ça n'est pas le plus important, mais d'abord, est-ce que vous croyez, comme le dit Marine Le Pen pour le RN, comme le dit le maire de Belfort qui était l'invité d'Yves Calvi hier matin, croyez-vous que cette annonce a été décalée pour laisser passer les européennes sur ordre du gouvernement?
Moi, je ne crois rien, je ne sais pas, je n'en sais rien, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus, franchement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous étions inquiets, le délégué syndical FO de l'entreprise était inquiet dès l'automne dernier sur la situation, donc il y avait quand même beaucoup d'interrogations sur la pérennité et les engagements de General Electric.
Ce n'est pas une surprise?
Ce n'est pas une surprise, on ne s'attendait quand même pas à ce coup de massue d'un coup, mais ce n'est pas une surprise, il y avait des inquiétudes quand même.
Et est-ce qu'il n'y a pas une réalité industrielle, Yves Verrier, qui fait que on doit fermer quand on est à la tête d'une entreprise, quand une filière n'est pas rentable? C'est ce que dit General Electric.
Là, il y a un vrai problème, justement. Je pense que la source, c'est qu'en France, depuis trop longtemps, on pense que les pouvoirs publics, l'État, n'ont plus de rôle à jouer en matière de conduite de politique industrielle. On a essayé de faire bouger les choses, on a mis en place un Conseil national de l'industrie, on travaille sur des filières industrielles, mais je pense qu'il faut absolument que les pouvoirs publics réinvestissent et soient à la fois à l'anticipation, stratège, qu'on regarde avec les entreprises les évolutions des marchés et qu'on n'attende pas le dernier moment où, quand c'est trop tard, pour venir nous dire « Ah, ben on va tout faire pour trouver une solution ». C'est souvent, malheureusement, trop tard. Et donc, je pense que on a depuis trop longtemps dans ce pays fait confiance au marché. On a pensé que le marché était la solution à tous les problèmes. Le marché ne résout pas les problèmes, il en crée. Il faut que l'État réinvestisse en amont. Donc là, il y a une urgence, évidemment, mais d'une manière plus générale, il faut que l'État se réinvestisse pleinement dans la conduite des politiques économiques, dans la conduite des politiques industrielles, et qu'on ne s'en remette pas aux actionnaires privés, a fortiori étrangers.
Ça, c'est pour la politique, comme vous dites, globale, industrielle, dans l'urgence, cette urgence-là, que doit faire le gouvernement?
Bien, il doit regarder immédiatement quelles sont les pénalités de General Electric. Faut quand même pas oublier. Alors, semble-t-il, ils ont payé quand même un certain nombre de pénalités, mais je pense que les engagements de General Electric, ils doivent être tenus. Il y avait des engagements en termes de création d'emplois, ils n'ont pas été tenus. Donc, il faut mettre la pression sur General Electric par tous les moyens, et puis il faut travailler avec les collectivités locales concernées, le bassin industriel concerné, parce qu'il y a autour beaucoup d'emplois induits. Il y a les 1000 emplois qui risquent de disparaître de General Electric directement, et puis tout ce qui tourne autour. Donc, là, il y a un investissement immédiat qu'il faut prendre, il faut y mettre des moyens conséquents.
Donc vous prenez acte de la suppression?
Non, je ne prends pas acte.
Non, mais vous dites, bon, il faut travailler à quoi?
Sur General Electric.
Ah.
Il faut revenir sur les engagements.
Pour reclasser ou pour empêcher ce qu'il a annoncé?
Pour reclasser, y compris au sein de General Electric. Regarder la filière, qu'est-ce qui peut être redéveloppé autour. General Electric est arrivé avec un engagement. Donc, où sont ces engagements?
De créer
1000 emplois.
1000 emplois. Effectivement, il en supprime. C'est vrai que le gouvernement a déjà dit qu'il exigeait que les 50 millions que doit régler General Electric pour ne pas avoir créé justement ce millier d'emplois soient mis sur la table.
Bah,
est-ce que vous lui faites confiance pour les obtenir?
Je lui fais confiance, j'en sais rien. Ce que je veux, c'est qu'il les obtienne.
Oui, donc vous dites oui, mais
Je dis oui, il faut absolument qu'il les mette. Il est hors de question qu'on laisse General Electric se comporter de cette manière.
Est-ce que vous demanderez éventuellement au gouvernement de racheter ou de nationaliser?
Encore une fois, ce que je viens de dire, ça vaut dans ces situations d'urgence, puisqu'il est trop tard et qu'on n'a pas anticipé, eh bien j'estime qu'effectivement, si nécessaire, l'État doit investir.
Investir jusqu'à racheter l'entreprise, jusqu'à racheter en tout cas l'activité qui n'a pas de débouché industriel, dit-on.
Je pense que l'État doit prendre en main cette question sérieusement, y mettre les moyens nécessaires. Évidemment, on ne va pas fabriquer quelque chose qui ne se vendrait pas. Si c'est la situation, je n'en sais rien. Je ne suis pas le spécialiste en la matière. Mais que l'État s'investisse investissent avec le bassin industriel local, y compris peut-être plus large, pour faire en sorte qu'on trouve un moyen à la fois de préserver l'emploi, ses emplois, et de faire en sorte que le bassin dans son ensemble ne pâtisse pas de cette décision de General Electric.
Je vous demandais tout à l'heure si vous faisiez confiance au gouvernement. Quand vous entendez Bruno Le Maire, par exemple, pour venir au sujet qu'évoquait tout à l'heure François Langlais avec Yves Calvi, quand vous entendez Bruno Le Maire sur RTL mardi exiger que le projet de fusion entre Renault et Fiat n'entraîne aucune fermeture d'usine en France, est-ce que ça vous rassure ?
Non, ça ne me suffit pas. Je pense que on avait exigé de General Electric qui crée 1000 emplois et on voit le résultat. Donc les grandes déclarations d'intention de portée générale, c'est une chose. Comment concrètement on s'assure que le projet de fusion Renault-Fiat sera effectivement productif et productif d'emplois et d'emplois en France ? Et qu'on ne se retrouvera pas dans une situation analogue où les intérêts d'un actionnaire étranger l'emporteront, ou d'un actionnaire privé, quel qu'il soit, l'emporteront sur les emplois qui concernent Renault en France, en particulier aujourd'hui. C'est ça la question majeure. On a un souci, par exemple, avec Saint-Gobain, Pont-à-Mousson en ce moment, où il y a une reprise de capital, notamment par un Chinois. On a alerté là-dessus en disant attention à ce que ça ne conduise pas à ce qu'on remette le devenir de l'entreprise entre les mains de capitaux extérieurs qui n'auront pas la préoccupation première de préserver l'emploi du bassin industriel. À Scoval, on espérait être sorti d'affaires. On voit bien que tout d'un coup, on est dépendant de l'entreprise mère qui rachète. Alors tant mieux, on avait un repreneur qui semblait solide et reprendre tous les emplois. Mais on voit que tout ça, c'est fragile. C'est pour ça qu'on voit qu'on ne peut pas s'en remettre simplement à l'actionnaire, à la finance.
Il est naïf, le gouvernement, ou philosophiquement, de toute façon, il est favorable au marché ?
Mais voilà, je pense que depuis trop longtemps dans ce pays, les gouvernements ont démissionné devant la conduite de l'économie.
Ou par conviction libérale ?
Je pense qu'il y a une forme de démission. On a le sentiment qu'on n'est plus capable de peser, d'agir sur les économies. Là, ça pose un problème à la fois national. Je pense que la France reste quand même une des principales économies au monde. Et ça pose encore une fois un problème européen. Quand et comment fait-on en sorte que l'Europe soit une Europe de progrès social, de progrès industriel, de progrès de l'emploi et non pas une Europe de la concurrence.
Pour résumer, vous demandez au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'éventuellement prendre une part dans le capital des entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. C'est sa responsabilité.
Quand on est en situation d'urgence, il faut réagir de façon urgente et préserver les emplois. Il y a des salariés qui sont dans l'incertitude, l'inquiétude, les familles, les salariés de l'activité autour qui se retrouvent eux-mêmes dans la même situation. Donc là, il y a un enjeu de solidarité nationale aussi.
Monsieur Verrier, est-ce que Force Ouvrière veut perturber la première épreuve du bac le 17 juin ?
Non.
Pourquoi vous êtes dans l'intersyndicale, les quatre syndicats qui appellent à une grève de la surveillance de l'épreuve de philosophie ?
L'objectif de se faire entendre. Encore une fois, ce gouvernement, j'espère que on ne va pas repartir après l'élection européenne en se disant hop, tout va bien, on continue, rien ne change. Il faut que ce gouvernement entende qu'il y a un rejet unanime des fédérations de fonctionnaires du projet de loi qui est en cours d'examen au Parlement, dit de transformation de la fonction publique. Il y a de très grosses inquiétudes sur les conséquences du projet de loi dans le secteur de l'éducation nationale, comme dans le secteur de la santé. Les syndicats n'ont pas d'autre moyen, s'ils ne sont pas écoutés autour de la table de négociation, que de mettre la pression. Il faut que le gouvernement entende.
Donc vous dites non. Vous rassurez les lycéens ce matin et leurs parents. Non, nous n'avons pas l'intention de perturber l'épreuve de philosophie.
Notre objectif n'est pas...
Nous donnons un coup de pression.
Exactement. Notre objectif n'est évidemment pas de perturber ceux qui sont directement en bout de chaîne du service public en particulier.
Mais vous attendez
notre
quoi de Jean-Michel Blanquer ?
Notre objectif est que le gouvernement entende.
Mais qui quoi ? Par exemple, le Sénat, sur sa loi confiance, le Sénat a supprimé tout projet de regroupement gouvernement entre les écoles primaires et les collèges. Vous demandez au gouvernement de ne pas rétablir cette disposition de la loi confiance.
Bien sûr, exactement.
Ça fait partie des amendements qui pourraient apaiser la colère.
C'est un des premiers aspects importants qui, effectivement, répondrait à ce que les syndicats FO revendiquent, bien évidemment.
Yves Verrier, les Gilets jaunes ont échoué de façon spectaculaire aux européennes. Ça vous étonne ou ça vous rassure ?
Je ne sais pas en quoi on peut dire qu'ils ont échoué ou réussi, les Gilets jaunes.
Ils ont échoué de façon spectaculaire à transformer leur action sur le terrain en une offre politique pour les Français.
Mais vous savez, encore une fois, sur les Gilets jaunes, moi j'ai souvent dit qu'on dit les Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement uniforme, homogène.
Ils ont obtenu des résultats spectaculaires, on l'a vu aussi. Et pour autant, la traduction politique est nulle. Vous l'expliquez comment ?
La traduction politique est nulle. Moi, je n'ai pas d'explication à donner. Je n'ai pas vu un mouvement des Gilets jaunes se structurer politiquement avec l'ambition de peser sur les élections. Les Gilets jaunes ont exprimé une colère, un malaise sur les questions sociales, notamment sur les questions de pouvoir d'achat.
Bien entendu, ils ont même obtenu beaucoup.
Ils ont obtenu, effectivement, ils ont fait en sorte que le gouvernement bouge. Ça a conduit à ce que le gouvernement finisse par entendre un certain nombre de choses. Maintenant, j'estime qu'il n'a pas répondu, le gouvernement, comme il l'aurait dû, notamment sur la question des salaires.
Mais vous avez
notamment
entendu
sur la question des services publics.
Il a interprété l'élection européenne, le résultat, le président, comme un encouragement à accélérer. Il l'a dit à ses ministres hier en conseil. Il faut accélérer, c'est le message des Français. Vous avez la même traduction ?
Pas du tout. Je pense que ce serait une grave erreur que de continuer comme si de rien n'était. Ça fait de nombreuses années que d'élection en élection, on passe et puis on dit on continue comme avant finalement puisqu'on est passé. Sauf que les rancœurs, les incompréhensions, les colères s'accumulent et ça
La
finit.
Colère, elle est intacte.
Ah oui, je pense que...
Et elle peut à nouveau déboucher sur une flambée.
Vous savez, cette semaine était une semaine où on a mobilisé beaucoup dans le secteur de la fonction publique, notamment de la fonction publique hospitalière. Il y a un malaise très fort dans le secteur de la fonction publique hospitalière. Il faut l'entendre, il faut y répondre.
Est-ce que vous pensez, juste un mot, est-ce que vous pensez qu'une flambée de colère sociale, comme on l'a vu cet automne, peut revenir au premier plan ?
Moi, je n'exclus rien. On va avoir un gros dossier, c'est celui de la retraite. Et je peux vous dire qu'on est très mobilisés sur le dossier de la retraite.
Merci beaucoup, Yves Verrier, d'avoir été ce matin sur RTL.
Et l'intégralité de cet entretien a été retrouvée comme chaque jour.